Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour. Tiens, Jérémy n'est pas là ?
Jérémy n'est pas là, non.
Oh, méchant Jérémy. Non, non, je l'aime bien.
Donc,
aussi.
Je suis revenu te voir dans les locaux de Rêve de Jeu,
oui.
À Pierre-Bénite. Parce que j'ai eu des soucis de matériel, des soucis de son. Mais tu as eu la grande gentillesse de m'accueillir une nouvelle fois chez toi. D'abord, je voudrais savoir qu'est-ce que c'est que Rêve de Jeu.
Alors, Rêve de Jeu, c'est une association, un groupe de personnes qui tourne autour du concept Rêve de Jeu que j'ai créé il y a très très longtemps, qui était en gros de faire du jeu pour tout le monde et avec tout le monde. Donc voilà, donc ça ne s'appelait pas Rêve de Jeu au début, ça s'appelait GAEL, groupe d'animation, d'éducation et de loisirs, parce que j'étais en Lorraine. Et puis après, ben, ça s'est appelé Rêve de Jeu, parce que les choses qu'on avait créées à l'intérieur de l'association qui s'appelait Rêve de Jeu, un centre de vacances, eh bien, ça a pris plus d'importance que le nom de l'association lui-même. Donc on a rebaptisé l'association Rêve de Jeu, et on a continué et développé ce concept. Voilà.
Et toi, qui es-tu, Jean-Pierre ?
Alors moi, je suis celui qui a mis au point le concept de Rêve de Jeu.
Alors quand je dis qui es-tu, pourquoi avoir eu l'idée un jour de rentrer dans le milieu ludique et de devenir acteur en fait de la vie ludique
C'est pas vraiment compliqué, comme certainement un bon nombre de personnes qui sont dans ce milieu-là. Quand j'étais tout petit, je n'étais pas grand et je montrais mes jeux à tous les passants.
Et tu étais donc dans l'Est de la France ?
J'étais dans l'Est de la France. J'étais né en Allemagne. Mes parents étaient militaires, ce qui explique mon côté un peu wargamer sans doute. Hein. Et puis, tout petit, j'ai eu de l'appétence pour les jeux. J'avais trois frères, donc je les obligeais à jouer avec moi. Alors eux détestaient parce qu'il semble-t-il que j'étais assez doué. Donc je leur mettais des piles graves. Donc eux, ils détestaient jouer avec moi. Donc plus ils détestaient, plus j'avais envie de jouer parce que je sais qu'ils voulaient m'écraser et tout. Et donc, bref, j'étais un espèce de général en devenir. Et le jeu est toujours resté en moi. J'ai joué à des jeux comme Rome et Carthage, par exemple, ou Shogun, tout vieux jeu de Ravensburger.
Pas la nouvelle édition, l'ancienne édition.
Non, un très vieux avec des mécanismes basés sur des aimants. Donc c'était un petit jeu de tactique et stratégie, un peu wargame, mais avec cette espèce de gestion du magnétisme qui était assez sympa.
Donc là, on est dans les années 70.
Oh, là, on est dans les années 60, parce que j'ai commencé tout petit à emmerder mes frangins avec le jeu de société. J'étais très, très joueur. Et puis dans les années 70, ça s'est un peu calmé. Je suis devenu animateur. Enfin, à l'époque, on disait moniteur de centre de vacances. J'ai fait l'armée, j'ai fait des tas de choses. À 19 ans, je me suis tiré de chez moi. Je suis devenu éducateur, enfin éducateur pré-stagiaire, puis après ça a continué. Et le jeu est revenu chez moi à toute vitesse en 77, puisque je passais mon BFD. Alors BFD, c'est le diplôme de directeur de centre de vacances. Ça, c'est un diplôme, c'est un brevet d'aptitude aux fonctions de directeur.
Avec le BAFA pour les moniteurs.
Le BAFA pour les moniteurs, le BFD directeurs. Pour les directeurs. Et je suis tombé sur des potes à moi qui étaient... en fac et qui avait ramené un jeu de société ultime, comme il disait, d'Amérique, des States, et ils en avaient fait une traduction. Alors c'est bien parce que ça ressemblait aux tests de l'époque, relier, copier, coller là, et tout. C'était pas mal.
Noir et blanc, comme, sans illustration.
Sans illustration, rien du tout, hein, etc. Parce que tu penses qu'ils avaient ramené que les trois livrets de l'époque, il n'y en avait que les trois, il n'y en avait pas d'autres. Donc on a commencé à jouer à ça et c'est là que je me suis dit que ça rattrapait un peu quelque part ce que moi j'avais appris en tant qu'éducateur, c'est-à-dire le psychodrame qui était basé sur un concept de Moreno qui était un élève de Freud à l'époque et qui s'était dit que dans le jeu d'acteur, on peut mettre des choses en place pour une thérapie. Voilà.
Et tu parles de quel jeu ?
Ah, c'était pas un jeu, c'était le psychodrame. Ça s'appelle
c'était psychodrame. Le psychodrame.
C'était le psychodrame, c'était une thérapie.
D'accord.
Une thérapie. Monsieur Moreno. Alors ça, je te parle de ça, c'est dans les années 20, 30, 40. Et moi, moi, je vois le jeu de rôle, c'était Donjons et Dragons. Ça s'appelait comme ça. Et je me dis, waouh, cool, c'est ce que j'ai appris, mais en s'amusant. Donc, ça m'a beaucoup plu. Et puis, j'ai un peu laissé tomber parce que j'étais intéressé par plein de choses. Je faisais du café-théâtre, je faisais de la guitare jazz, enfin, je faisais plein de choses. Plus des centres de vacances et s'occuper des gens le restant de l'année. Donc, ça prend beaucoup. Donc, j'ai laissé un peu tomber ça. Et puis, comme je faisais des vacances, des centres de vacances, un jour, j'ai décidé, après avoir rencontré un club à Lyon, donc les Paladins des Traboules, ça a été le deuxième plus grand club de France pendant une bonne dizaine d'années. J'ai rencontré ces gens-là, c'était un peu merdique leur organisation, donc un peu mon côté militaire, donc j'ai dit je vais m'occuper de vous, tout ça, etc. Donc je les ai rencontrés en 83 et en 84 je me suis dit, mais les centres de vacances que je fais qui étaient à tendance un peu sportive, mais il faut arrêter d'avoir du muscle. Alors certes, on peut avoir du muscle et du cerveau, mais je vais plutôt maintenant essayer de m'occuper un peu du cerveau. Et je pensais que le jeu, et je le pense toujours, que le jeu peut développer énormément de choses. Donc en 84, j'ai créé les premiers séjours de vacances ludiques. Ça n'a d'ailleurs pas été simple parce que Jeunesse et Sport ne voulait pas me donner une autorisation parce que jeux de société chez eux, ça n'existait pas. Les gens qui vendaient mes séjours, enfin pour qui je faisais les séjours au FCV, m'ont pris pour un fou. Avec la très célèbre phrase dont je me rappelle comme si c'était hier. « Ah, mais on va s'amuser avec tes jeux de rôle ?» Non, c'est pas drôle, c'est rôle, des jeux de rôle. « Ah, ben alors on va vraiment s'amuser avec tes jeux de rôle. » Voilà, alors celle-là, on me l'a fait pendant plusieurs années. Et puis là-dessus, ils se sont rendus compte que c'était la seule nouveauté qu'ils avaient cette année. Et que même s'ils ne comprenaient pas, je n'avais jamais planté un séjour ni quoi que ce soit. Donc, ils m'ont laissé faire. Et le concept est né tout de suite. Mais l'application du concept s'est faite sur 3 ans. La première année, donc, ça a été une semaine classique de mes séjours. Où on faisait de la rando, de la spéléo, de l'équitation, de la piscine, etc. Donc, sportif et camping. La deuxième, une semaine de jeu. Et la troisième, on reprenait un peu, hein, parce qu'il fallait quand même d'abord du muscle autour du cerveau.
D'abord les jambes et ensuite la tête.
Et voilà. Et ça a super bien marché, surtout la seconde semaine, alors que de base, on avait 10 jeux de société, donc 5, c'était moi qui les avais amenés. On avait un TO7 de Thomson, c'était le premier, PC français, mais le premier PC français grand public. Donc il y avait 8K de mémoire à l'intérieur, on avait acheté une extension de 8K de mémoire supplémentaire, 16K, waouh. Et dessus, on jouait avec des jeux en cassette, mais des cassettes avec des petits rubans, la magnétique et tout, il fallait les rembobiner et tout. Et à ce propos, on a eu le premier jeu que venait de sortir, ou un des tout premiers jeux que venait de sortir, Infogrames avec Bonnel, que j'avais rencontré dans un salon à Lyon, et qui m'avait filé une cassette de EL l'intrus. Donc c'était un espèce de alien avant l'heure. Donc on jouait à ça sur un petit magnétophone Texas Instruments. Enfin bon, voilà, c'était hop. Et les killers, parce qu'on a fait un killer déjà à l'époque, tous les matins on allait chercher des bouchons en liège dans le troquet qui était à côté, enfin le café qui était à côté de la colo. Où le matin, les bons paysans du coin commençaient au vin rouge et au petit blanc. Et donc, moi, je récupérais les bouchons. Et à la fin du séjour, on se faisait des killers en s'envoyant des bouchons. D'où le nom très célèbre de Killer Bouchon à Rêve de Jeu. Quand je parle de ça, bien sûr, tout le monde se fout de ma gueule puisque je suis le plus vieux et qu'on me prend pour un demeuré maintenant.
Un grand ancien.
Un grand ancien. Alors, les anciens, c'est un peu sénile. Hein. Donc, ah oui, du temps où tu jetais des bouchons pour faire des killers. Ah papy. Et voilà. Papy, il a fait le killer bouchon.
Ouais. Et en termes de jeux de société, c'était la belle époque, Ludo Délire.
Ouais, voilà. Mais tu avais des anciens aussi. C'est-à-dire qu'on avait des jeux qui venaient directement des States, comme du Victory Games, d'Avanel Hill, etc. Et tout, du Squad Leader ou des choses comme ça. Et puis on avait effectivement Diplomatie déjà, qui était quand même déjà à l'époque une célébrité en jeu. Et puis effectivement, on devait déjà avoir, je pense à l'époque, Super Gang. Je crois que même pas, on l'avait même pas, celui-là, il est venu après.
Ah
Donc,
là, vous aviez des bouchons, donc
on avait des bouchons et on
ça
pouvait faire ce
suffisait.
qu'on voulait avec des bouchons.
Et
Mais voilà.
ces jeux venus d'Amérique qui étaient quand même, qui avaient un poids assez important, une durée assez importante, vous avez réussi à les faire jouer sans trop de problèmes parce qu'en 84, il y avait quand même, c'était quand même pas aussi démocratisé que maintenant.
Pas du tout, oui.
Et vous avez réussi à faire prendre ce type de jeu.
Ben oui, mais parce que le préalable, c'était d'avoir des gens qui puissent encadrer ces jeux-là. Or, à l'époque, des animateurs jeux, ça n'existait pas. Donc, il a fallu que je crée cette espèce de personnage. Et au début, quand tu crées sur rien, ben, t'as pas grand-chose. Donc, je me suis dit, je vais d'abord prendre des joueurs, et moi, je vais jouer le directeur adjoint, l'animateur, les aides animateurs et tout ça, et je vais les encadrer fortement. Donc les premiers animateurs que j'ai eus n'étaient absolument pas pédagogues pour deux sous, sauf un, Roger Barnou. C'est normal parce que lui c'est un moniteur d'escrime, donc il avait déjà une idée de collectivité d'encadrement, puis il est devenu prof en plus, donc tout compte fait. Et donc les animateurs, les joueurs étaient des animateurs parce que je les encadrais, et au fur et à mesure, la tendance est inversée. C'est-à-dire que de joueurs animateurs, ils sont devenus animateurs joueurs, et maintenant ce sont même plutôt des animateurs qui savent jouer et qui maîtrisent le jeu. Donc il y a eu en 27 ans une formation et une émergence d'animateurs de ce type. Mais au début, non, non, que ce soit Joël, tout au début Roger, et Stéphane, etc., c'était des purs joueurs, quoi. Donc ils avaient une passion, ils connaissaient les jeux et ils ont eu aucune difficulté à faire rentrer les gamins dedans. Et de toute façon, un, les gamins, soit ils étaient venus pour ça, mais il n'y en avait pas beaucoup au début, hein. On a dû en avoir 14, 16 maxi. C'était quand même pas connu du tout, hein. Donc il y en a qui sont venus pour ça, et d'ailleurs qui sont restés au club par la suite et qui sont devenus animateurs pour un nombre assez important au fur et à mesure des années qui sont passées. Et puis les autres, de toute façon, que ça leur plaise ou pas, ils étaient venus dans cette colo, donc ils ont bouffé du jeu. Et voilà quoi. Et donc ça a créé le premier séjour rêve de jeu. Voilà. Et la deuxième année, comme ça avait beaucoup plu, les gamins avaient demandé, mais est-ce qu'on peut pas en faire un peu plus, Monsieur Cadbury? Et ben alors oui, on a fait du RDJ Burry un peu plus, et on a fait une semaine jeu, une semaine sport, une semaine jeu.
Un peu moins de jambes, mais un peu plus de tête.
Et voilà, et puis l'année après, les gens disent, ah, disons que Jean-Pierre, on se fait chier quand on rentre de tes virées, tout ça, etc. On voudrait vraiment s'éclater à jouer tout le temps. J'ai dit, pourquoi pas? J'ai dit, je trouverais des moyens de leur faire faire des activités physiques et du sport. Enfin, surtout des activités physiques. Et j'ai fait 3 semaines d'un seul coup. Ça a été du délire. Et donc c'est en 87. Et en 96, je me suis dit, bon, ben voilà,
Le format est trouvé.
je tiens mon format. Et maintenant, il faut que je remplisse ce format pour en faire vraiment quelque chose. Parce que j'ai toujours une idée. Je suis un peu à contre-courant de la définition du jeu. Définition du jeu, en gros, c'est un temps pouvant être formel ou informel qui fait qu'on va échanger des choses, mais il n'y a pas de richesse qui s'accumule, il n'y a pas de transport de propriété, c'est librement consenti, ça s'arrête à un moment donné, les règles du jeu ne sont faites que pour le jeu, etc., etc. Il n'y a pas d'action ou d'interaction sur la vie. Enfin bref, il y a plein de définitions qui expliquent ça. Et moi, je suis très vite parti du postulat que quelquefois mes animateurs ont du mal à accepter ou à comprendre, c'est que aucune de nos actions ludiques ne doit être faite pour rien. Donc moi j'utilise le jeu à l'encontre de ce qu'il est, et pourtant ça marche puisque tout le monde y joue, tout le monde s'éclate, tout le monde partage, mais sans le savoir, souvent, ou en s'en rendant compte, et en tout cas assez rapidement après, s'il y a besoin dans leur vie, ils se rendent compte qu'ils ont appris des choses. Et ça j'aime bien. Voilà. C'est mon côté manipulateur d'éduc ou d'éduc manipulateur, je ne sais plus.
Donc là, on était en 87.
Ouais.
Tu parlais des paladins, des traboules. Est-ce que tu recrutais dans ce club déjà? Tu cherchais tes éducateurs dans ce
À un moment, effectivement,
vivier?
on a recruté des clients, des stagiaires. Enfin, au début, on disait stagiaires. Ensuite, on a dit.
Quel âge ils avaient?
Alors, ils ont toujours d'ailleurs, dans le format été, entre 12 et 17 ans.
Des ados.
C'est des pré-ados-ados. Donc, on prenait ceux qui nous semblaient super. Donc, on se permettait de trier un peu. Et puis. Au début, les animateurs étaient bien sûr ceux qui prenaient un peu en main le club avec moi et qui avaient des capacités. Je n'allais pas mettre quelqu'un que j'aimais bien, mais qui était nullissime en pédagogie appliquée, quoi. Donc ça s'est fait comme ça. Et puis très rapidement, donc moi, c'est une de mes qualités. J'ai beaucoup de défauts, mais j'ai quelques qualités. C'est de me rendre compte qui peut devenir quelqu'un plus tard, selon les chemins qu'il va emprunter. Systématiquement, à chaque fois que je voyais arriver un gamin à 12-13 ans, je le regardais vivre pendant une semaine et je me disais, bon, ben celui-là, on le récupère à 17. Donc voilà. Et ça s'est fait comme ça au fur et à mesure. On a très peu de gens de l'extérieur qui ne sont pas rêves de jeu, qui travaillent dans les équipes rêves de jeu. Et à l'heure actuelle, on a plus de 90%. Les animateurs sont des gamins. Des gamins qui ont travaillé, enfin qui ont travaillé, ils ont sans doute travaillé un peu, mais qui sont venus chez nous pendant 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans des fois, pour certains. Puis à un moment, on avait même des séjours adultes, qui n'existent plus maintenant depuis 4 ans. Donc on pouvait même recruter parmi les adultes, puisque là aussi, 90% des adultes qu'on avait dans nos séjours adultes étaient des jeunes qui avaient passé le cap des 18 ans, ne pouvaient plus les prendre en centre de vacances. Donc à partir de ce moment-là, hop! Il passait dans le séjour adulte et je pouvais aussi recruter là.
Et pourquoi est-ce que vous avez arrêté ce type de séjour?
Oh, pour plein de raisons, mais la première, c'est parce que on a eu des difficultés. Au début, les adultes étaient mélangés avec les ados au niveau du jeu, parce que on maîtrisait ça très bien et que nos jeunes adultes étaient des ados qui avaient grandi. Donc, ils respectaient totalement les devoirs et les obligations d'adultes à côté de mineurs. Et puis Jeunesse et Sport s'en est occupé. Il nous a dit que c'était pas possible que des adultes soient avec des adolescents. Donc on a dit bon, on va séparer, ce qui a effectivement pendant 2-3 ans été très mal compris par les jeunes comme les vieux d'ailleurs, parce qu'il y avait des potes, des tout ça, etc. Des 12-13 ans qui s'étaient fait des amis ludiques qui avaient 18-19 ans, ils ne comprenaient pas pourquoi ils ne pouvaient plus jouer avec. Et puis c'est un peu rentré dans les mœurs. Et puis pour survivre, le séjour adulte devait aller au-delà simplement de certains de nos jeunes qui grandissent, qui vieillissent et qui peuvent continuer à venir. Donc il a fallu qu'on s'ouvre à une autre clientèle. Je ne pense pas qu'on était prêt à avoir une clientèle qui n'était pas forcément une clientèle joueuse. D'ailleurs, qui à un moment dit bon, j'ai appris qu'il y avait une laiterie dans le coin, on va aller visiter ça. Oui, on fait un diplôme là. Oui, là on est en civilisation, tu sais.
Revenez dans 7 heures.
L'âge de bronze là, tu sais, alors en ce moment, il y a des disease, tout ça, etc. Ah, non, mais je ramènerai du fromage. Bon, d'accord. Et puis aussi parce que je voulais vraiment qu'on fasse un travail. Pas similaire, mais un bon travail ludique aussi avec des jeunes adultes, parce que je pense qu'ils en avaient besoin aussi, et beaucoup nous l'ont prouvé. Et pour ça, il fallait être sûr qu'on ait un certain quota d'inscrits, et il n'y a rien de plus chiant que des adultes pour s'inscrire dans des vacances, seul ou avec une copine, ou hop, et pour être sûr qu'ils viennent, quoi. Donc, ils faisaient traîner de plus en plus, etc. Parce qu'ils savaient qu'on était coulant. Puis à un moment, j'ai dit, bah non, je ne peux plus être coulant, parce que moi, je veux faire du bon travail. Vous m'aidez pas à le faire. Donc voilà, si cette année-là, vous inscrivez pas un mois et demi avant, à minima, mais vraiment à minima, ben je ne le ferai pas. Je sais pas, ils n'ont pas dû me croire, pourtant je suis joueur. Hein, donc il y en a moins de 10 qui se sont inscrits. J'ai dit, je ne le fais pas. Et la deuxième année, j'ai dit, je vous préviens, je refais pareil. Puis la troisième année, j'ai même pas averti. Et la quatrième année, j'ai dit, c'est terminé. Je ne m'occupe plus que des ados, des pré-ados et des 6-11 ans. Et les adultes peuvent très bien aller s'amuser eux-mêmes, tout seuls, ils n'ont pas besoin de moi. Voilà comment ça s'est fait.
D'accord. Donc
Oui, je suis un peu expéditif.
En 4 ans,
Ouais, c'était pas mal, je trouve, hein.
Il y a eu des coups de semonce,
Ah,
c'est
il y
pas
a
venu
eu
du
de...
jour
Oui,
au
et puis
lendemain.
avec moi, les coups de semonce, c'est les canons de Navarone, hein. C'est pas chargé à blanc.
Donc aujourd'hui, on a encore la possibilité d'inscrire nos enfants pour des séjours longs de 3 semaines
Oui,
en été.
14 ou 19 jours. 14, ça permet pour les gens, parce que je trouve que les séjours de vacances sont chers, les miens comme ceux d'autres collègues et néanmoins concurrents. Donc on fait 14, ça permet un prix un peu plus doux. Et 19, pour ceux qui veulent vraiment s'éclater, ça permet aussi d'aller jusqu'au bout, parce qu'on a une trame ludique. Entre nous, on dit psycho-ludique, mais il faut pas le dire. Donc on travaille véritablement sur un évolutif du premier au dernier jour, que ce soit pour les nouveaux qui nous découvrent, que ce soit pour des nouveaux mais qui ont déjà un niveau en jeu, ou que ce soit pour nos anciens qu'on connaît très bien puisqu'on les maîtrise depuis souvent plusieurs années.
Et comment est-ce que vous faites le choix entre 14 ou 19 jours? C'est les enfants qui s'inscrivent, qui
Alors
demandent à
souvent,
faire 19 jours ou...
souvent les gamins veulent faire tout de suite 19, la plupart du temps, hein. Et les parents me demandent. Et moi, je ne veux pas effrayer des parents. Je suis parent moi-même, donc je comprends ça. Donc je leur dis, écoutez, mettez-le 14 jours. Si véritablement vous pensez que c'est extraordinaire, qu'il vous saoule et tout ça, etc., et qu'il vous demande au bout du 13e jour, un 19e jour, 5 jours supplémentaires, mettez-le. Mais pour une première année, faites-le tester 14 jours. Vous voyez sa réaction. S'il vient l'année prochaine et que vous lui mettez 19, ben vous aurez fait un pas dans sa direction, puis il l'aura mérité.
Et le camp lui-même dure 3 semaines.
Le camp lui-même dure 19 jours.
D'accord, très bien. Et ça, c'est le premier format. Il y a un deuxième format un peu plus court pour les enfants un peu plus petits.
Alors ça, c'est donc le premier séjour rêve de jeu été pour ados et pré-ados, où on fait tous les jeux de société. Donc classiques, familiaux, tactiques, stratégiques, wargame, killer, murder, GN, gros événementiels ludiques, etc., etc. Jeux de simulation, eh bien ça c'est pour les 12-17 ans. Et puis en 92, je suis parti de l'idée que je voulais créer quelque chose pour les petits, parce que je m'occupais plus de petits depuis quelques années, et j'avais envie de faire quelque chose d'extraordinaire. Et comme en 87 on avait fait les premiers jeux de rôle grandeur nature dans nos séjours, on a certainement été les premiers en France à faire ça avec des gamins, parce que c'était des vrais GN, hein, comme à l'époque. Et bien, je me suis dit que pour les petits, ils avaient le droit aussi de sauver le monde. C'est comme ça que je l'avais écrit d'ailleurs dans mon descriptif. Descriptif d'ailleurs qui n'a presque pas changé au niveau de cette phrase. Et ils sauveront le monde. Donc, j'ai mis 2 ans, j'ai commencé en 90 à réfléchir à ce format. Parce que je pense qu'avec des 6-11 ans, il ne faut pas se planter, quoi. Parce qu'un GN, c'est, il y a de la violence, il y a de la peur, il y a de l'angoisse, il y a du stress, etc., etc. Donc il fallait vraiment que je travaille de bonne manière sur leur développement psychique et affectif, tout ça. Donc on a travaillé avec un pote à moi là, qui était un stit, et on a travaillé sur le développement des... 7, 6, 7 ans, 6, 7 ans, 8, 9 ans et 10, 11 ans. Voilà. Et donc, on a créé des castes pour les petits, les moyens, les grands, tout ça fait un gros travail. Et on s'est lancé en 92 avec une banque que je ne nommerai pas, et qui nous a fait confiance, qui est tombée sur nous un peu par hasard, parce qu'on bossait avec une grosse asso de vacances, et qui a dit non, non, moi je veux ça. Et ça, c'était rêve d'aventure. Donc ça s'appelait à l'époque la geste des deux frères, Mon Cabrier, la geste des deux frères. Donc on a fait ça dans une grosse propriété que possédait cette banque, qui m'a donné à l'époque de l'argent pour acheter beaucoup de matériel parce qu'on n'avait rien. On créait vraiment de tout de A à Z. Et on a eu première semaine 45 gamins, deuxième semaine 45, troisième semaine 60. Voilà. Et là j'ai créé un format tout de suite parce que je pensais que c'était le meilleur et ça a super fonctionné.
8 jours.
Alors là, c'est 8 jours. Bon, on a fait des standards plus petits maintenant, mais de base, c'était 8 jours. Ils s'éclataient pendant 8 jours et ils sauvaient le monde et retrouvaient leurs parents. Voilà, donc c'était assez extraordinaire. Et il se retrouvait confronté, et on l'a refait, hein. Ça veut dire que on l'a refait 2-3 fois après. Pendant une longue période, j'ai arrêté pour me consacrer vraiment à Rêve de jeu été, à faire d'autres choses avec le jeu. Et puis l'année dernière, en 2010, 18 ans après, parce que j'en avais marre des ados et des pré-ados et des adultes, je me suis dit, je vais refaire, je vais retrouver mes petits.
Et, voilà. Et concrètement, ça se passe comment pour eux? Est-ce que ils font tous la même chose ou
Non, alors oui et non, parce qu'ils sont
dans de caste.
Alors de base, ils sont dans un village médiéval. Donc on fait médiéval parce que ça leur parle plus par rapport à tout ce qu'on voit à la télé, tout ce qu'on peut lire quand même. Même si l'ASF tient une bonne place dans leur imaginaire.
C'est peut-être un peu plus compliqué à mettre en place.
C'est beaucoup plus compliqué. La science-fiction, voilà, le médiéval, ça me permet effectivement de faire un médiéval un peu baroque, kitsch, rococo, tout ce que tu veux. On s'en tape. Les gamins, eux, tout de suite,
ils accrochent.
Tu mets quelqu'un à 500 mètres et ils te disent, oh, c'est un Uruk-hai. Oh, t'es sûr? Allô, t'es bien en orque? Oui, en orque uniquement. Eh ben écoute, ils ont vu un Uruk-hai, hein, c'est bien. Donc le Seigneur des Anneaux a fait du bien au niveau de la technicité des gamins. Donc comment ça se passe? Eh bien les gamins, selon l'âge, sont mis dans des castes. Alors en gros, je révèle des secrets pédagogiques là. En gros, les petits sont dans le merveilleux et l'action pour aider les plus grands. Les moyens sont dans la défense du village et ils s'occupent des tâches telles le potager ou les animaux, puisqu'on a un vrai potager et des animaux. Et les grands, eux, font de la géographie, c'est-à-dire qu'ils vont voir un peu ce qui se passe, ils font de la cartographie, de l'orientation avec les étoiles et tout ça. Et ce sont les guerriers. Voilà. Donc il y a un peu le merveilleux, les protecteurs, les guerriers. Et de temps en temps, ces 3-4 vont se retrouver ensemble pour des espèces de mise en scène générale. Et la plupart du temps, ils ont des choses qui leur arrivent très précisément et qui sont en interaction avec tout le reste. Ah, il faut savoir que tout ça, c'est écrit. Que pour que sauver le monde n'arrive pas, il faudrait vraiment quand même que... et à la limite, c'est pas les gamins que je blâmerais le plus, c'est les animateurs qui n'auraient pas bien fait leur boulot. Mais ça peut arriver. Et aussi, surtout, parce que chaque soir, tout ce que les gamins ont fait interagissent sur ce qui a été écrit. Et la nuit, on réécrit, on regarde si c'est bon, on va relancer un truc, si ça a pas flashé, etc. Donc, tous les soirs, c'est qu'est-ce qu'on fait? Donc, on remet tout. Alors, des fois, il n'y a pas grand-chose à remettre. Et puis, des fois, ben, faut construire, je sais pas moi, un mini-château la nuit... ou creuser un trou et y mettre un horrible monstre qui va sortir dès le matin pour les embêter au petit-déj ou je sais pas quoi, enfin, ou une fée qui arrive qui n'était pas prévue. Donc c'est vraiment un truc qui met les animateurs en danger, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais ce qui arrive, mais moi c'est ce que j'aime là-dedans et c'est ce que j'essaye de faire comprendre à mes animateurs. Un vrai animateur, c'est quelqu'un qui sait réagir, qui sait s'ajuster, qui sait ne pas avoir peur de l'inconnu et qui sait remettre tout en question, parce qu'à un moment, ben non, là, ça marche pas. Donc, ils ont fait ça. On n'y avait pas pensé. Et tu les prends pour des cons? Non, mais alors là, on est obligé de tout recommencer. Ouais, et ben voilà, on en a pour 2 heures, là. Tu t'assois, tu prends un café, un thé, ce que tu veux, et on y va. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne.
Ils reviennent, tes animateurs, ils reviennent d'une année sur l'autre, ou alors ils encaissent le choc?
Ils reviennent plutôt assez fréquemment. Ils ne m'aiment pas forcément. Par contre, je suis un peu patronal, un peu paternaliste, donc ça n'arrange pas les choses, mais je les pousse à faire des choses auxquelles ils ne pensaient, ils ne se sentaient pas capables, de faire. Et je pense que si jamais ils doivent avoir un certain respect pour moi, à un moment, ils l'ont certainement encore plus après, quand ils se rendent compte que tout ce que j'aurais appris, même si c'était au forceps, c'est vraiment des trucs qui vont servir à un moment. D'ailleurs, ceux avec qui je me suis le plus fâché, tel un père et son fils, sont repartis et 10 ans après sont revenus me dire Jean-Pierre, voilà, j'ai fait comme toi, j'ai voulu créer un truc et tout. Et même si je m'en suis voulu, bah, il a fallu que de temps en temps que j'applique tes méthodes parce que elles sont malheureusement universelles et que l'être humain, bah, il est universellement connard quand il veut, même s'il est capable du meilleur et aussi capable du pire. Voilà. Donc moi, j'essaye de les rendre meilleurs en beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que je suis moi-même le meilleur, loin de là. Mais je maîtrise. Je maîtrise ce qu'il faut qu'on soit et ce qu'il faut faire. Après, ce qu'on est réellement soi, ça c'est autre chose, c'est très personnel.
Et donc, dans ces aventures de 8 jours, ton équipe pédagogique, c'est elle qui fait l'aventure au jour le jour.
Non, on a deux systèmes. Alors là aussi, c'est un secret de beauté, j'allais dire.
Secret
Un
de fabrication.
secret pédagogique, c'est les équipes rêves de jeu pour le jeu de rôle grandeur nature ne sont pas séparées, pourtant elles le sont. Ce sont tous des animateurs, mais tu as les technicos et les pédagogos. Les technicos, eux, sont des animateurs qui vont être habillés toujours modernes, qui ont donc toujours un pied dans le monde actuel et qui vont réagir comme des animateurs tout à fait classiques, BAFA ou non BAFA. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'avoir le BAFA pour être bon, mais il faut un quota de BAFA dans une équipe, hein, c'est bien connu. Ces animateurs-là, par contre, connaissent très bien le fond de l'histoire. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir comprendre ce qui se passe et à un moment voir que s'il y a une ligne directrice qui est en train de s'étioler ou s'il y a un danger immédiat, ils vont pouvoir faire quelque chose tout en restant à l'extérieur du jeu, justement. C'est ça qui les rendront plus crédibles s'il y a un problème. Ils sont là, ils imposent quelque chose. L'autre côté, ce sont les technicos. Les technicos, ce sont tous les animateurs qui vont faire tous les rôles, les multi-rôles qu'il va y avoir pendant l'histoire. Et généralement, il y en a beaucoup. Chaque animateur a au moins 4 ou 5 rôles à faire. Et en sachant que le rôle principal qu'ils tiennent, c'est celui de récurrent. C'est comme ça qu'on les appelle, les récurrents. Les récurrents, ce sont des personnages qui habitent au village ou qui sont proches du village et que les gamins peuvent voir tous les jours. Ça nous permet d'avoir une espèce de couverture et de se balader partout pour planquer du matériel, aller en chercher, préparer des effets spéciaux et tout ça. Puisque le reste du temps, on sera des ennemis ou des amis, mais qui vont être rencontrés dans le cadre hors du village. Voilà. Et c'est comme ça qu'on le gère. Ce qui fait que il y a un nombre, en rapport des gamins, un nombre d'adultes assez important qui les encadre, de près ou de loin, au niveau de la sécurité, qu'elle soit affective, psychique, ou physique. Donc, c'est très très encadré. De base, même quand on a 45 gamins, par exemple, parce que là, on n'en fait pas plus, ça va que jusqu'à 45, c'est quand même une personne adulte pour trois gamins. Alors
Ce
ça,
qui est pas mal.
c'est du pas beaucoup vu, hein. Ça c'est sûr. Les technicos ne s'occuperont pas des gamins en termes pédagogiques ou de vie quotidienne, comme on dit dans une colo. Mais ils sont capables, et ils le savent, et ils peuvent agir et réagir si jamais il y a un danger immédiat ou si il y avait un manque de la part de l'équipe d'encadrement pédagogique ou tout simplement parce que on se trouve confronté à une autre colo qui est à côté ou un truc comme ça, il se passe quelque chose. Donc voilà. Donc la gestion du séjour est faite avec toute l'équipe et elles ont des rôles différents mais totalement complémentaires. Alors c'est très dur pour les pédagogues de ne pas être déguisés et de pas aller au milieu de la mêlée. Donc c'est vraiment quelque chose qui les...
Frustre.
Ouais, c'est une grosse frustration. C'est exactement l'inverse pour les autres. Quand on est technicos, et moi je suis souvent technicos, chef du village, je suis très frustré de ne pas avoir les gamins avec moi dans des instants comme le coucher ou le repas, etc. Quoique le repas, souvent on a une salle qui est transformée un peu en château. Ou une espèce de grand truc du village décoré médiéval, et où de temps en temps les gamins nous invitent à manger pour nous expliquer. Alors ça, c'est une fourchette. Fourchette. Cuillère. Non, fourchette. Donc voilà. Ça donne des trucs pas mal.
Ça se passe où? Vous avez trouvé un lieu? D'abord, est-ce que c'est toujours au même endroit ou
Alors
est-ce que vous changez?
non, ça n'a jamais été pour l'instant au même endroit. On a toujours changé. Et à l'heure actuelle, celui qu'on va faire cette année est à Apinac, dans la Loire, c'est le Haut-Forez, L'année dernière, c'était à Retournac, c'était dans la Haute-Loire, bled un peu perdu, au milieu d'une nature demi-sauvage, c'est cool. Et on peut être appelé à le faire n'importe où, puisque, par exemple, je ne sais pas, moi, le ministère des impôts avec qui on a des relations sur Lyon, veulent qu'on leur prenne des gamins, on est capable de dire, ben, si vous voulez, on le fait là, ou là, c'est vous qui décidez, si vous avez un lieu, ben, on va le visiter, on va regarder. Donc on peut faire vraiment un rêve d'aventure sur mesure.
Il est prérequis quand même.
Oui. Moi, j'aime bien trouver à la fois une rivière, une falaise, une grotte, une crête, une clairière, une combe, et si possible, un vrai vieux de 84 ans qui raconte des histoires.
Un peu de matière.
Ouais, voilà. Mais on trouve pas tout ça partout.
Et cette année, tu peux nous rappeler les dates, s'il te plaît? D'abord,
Oh!
dis-moi s'il y a encore des places disponibles.
Alors, il y a encore des places disponibles pour Rêve d'aventure 2011 à Pinacq dans la Loire. Et ça se passe, si mes souvenirs sont bons, du 30 avril au 7 mai, je crois. Voilà, vraiment de mémoire.
Et si on veut inscrire ses enfants?
Alors, bah, il suffit de soit de venir sur notre site rêvedejeu.com et il y a tout écrit là-dessus et ça renvoie là où il faut. Soit taper VAD à Pinacq. Alors, VAD, ça veut dire vacances, accueil, découverte. À Pinacq et ils ont leur propre site puisque cette année on le fait en partenariat avec eux. C'est eux qui prennent les inscriptions, on leur laisse faire la gestion de ce truc-là. Alors que l'année dernière c'était nous qui faisions tout. Mais on sera amené à refaire tout. Là c'était pour travailler avec un partenaire qui avait envie de travailler avec nous. Voilà.
Pour revenir un petit peu sur le rêve de jeu, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Parce que tu m'as expliqué un petit peu comment ça se passait au niveau de rêve d'aventure. Rêve de jeu, on y fait quoi? Tu m'as dit qu'on y faisait tout, mais...
Alors oui, le restant de l'année, parce qu'on a essayé de faire des choses pendant qu'on faisait du rêve d'aventure ou du rêve de jeu été, mais c'est pas possible. On est trop sur nos trucs, on a trop envie d'être avec les gamins, trop envie d'être bon, les interpeller, voilà, les surprendre, etc. Donc on a tenté des fois de continuer nos activités rêve de jeu de l'année en même temps, mais c'est pas possible. Donc le restant de l'année, on fait plein de choses. Le jeu, c'est un médium facilitateur qui permet vraiment d'aborder tous les sujets. Je peux aller jusque-là, je pense qu'avec le jeu, on peut aborder tous les sujets. On ne peut pas tout résoudre les problèmes, mais on peut aborder d'une manière ludique tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, avec le jeu de société et les outils socio-ludiques, comme on dit chez nous, qu'on a créés? Eh bien, déjà, on peut faire de la prévention dans les quartiers difficiles. Pourquoi prévention? Parce que un jeu de société, c'est un jeu en société. C'est une règle de jeu. Une règle de jeu, c'est une règle de vie. Une règle de vie, c'est une règle sociale. Et une règle sociale, c'est une loi. Et une loi, ben, c'est un peuple. Voilà. Donc, ça amène des choses intéressantes. On fait et on a fait de la réinsertion professionnelle avec les missions locales. Donc, cette espèce de pôle emploi qui accueille les jeunes de 16 à 25 ans, souvent en grande précarité d'emploi. Donc avec le jeu, on leur apprend que bah, chercher un travail, en tout cas, c'est un vrai travail. C'est que le travail, il se fait déjà là. Donc on a mis en place un ou deux jeux qui permettent d'aborder ça sans trop qu'ils se fassent chier. Parce que souvent, les outils faits par ce genre de structure, bof, c'est pas très amusant. Hein. Donc moi, j'y ai amené un côté un peu ludique. On fait des séjours ruptures, c'est-à-dire qu'avec des... soit des régions, soit des associations qui s'occupent de reconversion ou de remettre des jeunes en piste au niveau de l'emploi, tout ça. J'ai créé un séjour rupture avec que du jeu pendant 3 à 5 jours où on les plonge dans tout cet univers rêve de jeu pour essayer de faire redémarrer quelque chose chez eux. Mais redémarrer, c'est aussi bien faire des tâches journalières, se réveiller à l'heure, se laver. S'habiller correctement, se dépenser, pas s'endormir tout de suite après comme un gros naze parce que dans la vie on boit, on fume, on pète et voilà, pas plus loin que ça. Donc, c'est vraiment. C'est comme les séjours à l'ancienne. Hein, les éducs, on faisait des séjours rupture. On emmenait les gamins avec des sacs à dos. On faisait 5 jours avec 45 kilos sur le dos. On montait à 3000. Et les gamins, ils arrivaient, on disait, oh, c'est nous qui avons fait ça. Oui. Donc, voilà. Bah, c'est un peu pareil avec les jeux. On fait des killers, murder, et on monte en puissance, parce que des fois, le niveau est vraiment très très bas. Donc, on fait de la réinsertion professionnelle. On fait des séjours rupture.
Et dans ce cas-là, le fait, est-ce que vous mettez en avant le jeu et est-ce que
Ah
c'est
oui.
bien perçu? Est-ce qu'il n'y a pas
Alors,
une...
c'est bien perçu parce que les rares fois où on l'a fait, on l'a pas fait beaucoup. Hein. Mais les rares fois où on l'a fait avec un partenaire qui savait présenter et travailler ça.
D'accord.
Voilà. Puisque un des directeurs de produits pédagogiques de l'agence associative avec qui on a travaillé est un de mes directeurs adjoints en août.
Donc on n'a pas cet a
Pendant
priori
l'été.
plutôt négatif en disant le jeu c'est pour les enfants, c'est...
Il y a toujours un a priori négatif quand tu parles de jeu. C'est bien pour ça que nous, on parle plus de jeu. Quand on est en professionnel, on parle d'outils socio-ludiques. Voilà. Donc ça marche très bien. Je remercie d'ailleurs mon ami Francis Gagnon au Canada qui m'a susurré un jour une partie de cette petite phrase, les outils socio-ludiques. Voilà. Et ça marche très bien. Merci Francis.
Vous retravaillez pour des entreprises, tu parlais de cette banque, ça, vous le faites encore assez souvent ou c'est marginal?
Non, c'est marginal parce qu'on n'est pas du tout commerçant ni commercial. Moi, je suis un petit frère de 68. Moi, j'ai écouté mes grands frères. J'avais 11 ans, 12 ans. Ils disaient, ouais, l'argent, non, le diplôme, c'est de la merde. La société, trou du cul. Donc, fais ce que tu veux. Sois toi-même. Ouais, j'ai écouté. Et eux sont riches et pas moi. Déjà, merci les frangins. C'était cool. Je vous ai tous bien écoutés. Et voilà. Donc, et pourquoi je disais ça d'ailleurs?
Travailler pour les
Ouais,
entreprises.
travailler pour les entreprises. Donc, moi, j'ai pas une culture d'entreprise, j'ai une culture socio-cul complète. Donc, c'est très difficile pour moi de vendre quelque chose. J'ai l'impression que je me vends et quand on me dit vous pourriez pas baisser votre prix ou vous êtes trop cher ou mais ça sert à rien ce que vous faites, j'ai l'impression que le mec il me propose une merde et je m'énerve. Donc, je préfère pas m'énerver parce que quand je m'énerve, ça fait mal. Et les mecs, ils en entendent des vertes et des pas mûres. Et en plus du vrai, parce que quand tu es joueur à mon niveau, comme d'autres, où on travaille avec le jeu, tu restes 10 minutes avec une personne, tu engages un ou deux trucs socio-ludiques avec lui et tu sais déjà à moitié comment il est, quoi. Donc, après, ça fait mal. Bon. Donc, je ne vends rien dans ces cas-là. Donc, ça ne veut pas dire que je ne sais pas vendre. La preuve, hein, ça fait 27 ans qu'on existe, j'ai quand même bien vendu des trucs, mais si je vends un, deux trucs dans le mois, c'est bien, après ça m'emmerde, quoi. C'est pas du tout mon truc, hein. Moi, il y a des gens qui font ça très bien. Et voilà, quoi. Mais on a réussi à avoir, parce que des gens nous ont rencontrés, parce que certains ont parlé de nous dans leur entreprise et tout ça, on a travaillé avec des gens comme La Maïf, Acta, Merial, Sanofi Pasteur, Aventis. Enfin, on a un petit... Ça me fait penser à tous ces gens qui créent des agences depuis 10 ans, là, des agences de jeux et tout, et ils mettent le nom de toutes les entreprises avec qui ils ont travaillé.
Les
Je
références.
déteste ça. Quand on m'oblige à le faire, je dis à mon cerveau, mais c'est vraiment de la merde, on n'a pas besoin de ça. Vivons plutôt cachés et pas reconnus, mais au moins on ne se vend pas, quoi. Mais si, on a voilà, une dizaine de noms, quand les gens regardent, ils disent, Ah, vous avez travaillé avec... eh oui, Acta, Euriware, Arkema, ouais. C'est super. Mais bon, c'est pas notre truc. Donc, mais on le fait. Mais chaque fois, comme on était introduit par quelqu'un ou par un on-dit, j'ai souvent réussi à faire ce que je voulais. Et ça a marché.
Parce que ça veut dire que quand tu travailles pour des entreprises, tu es contraint par un formatage dans la durée, dans les activités, dans
Ah bah
le...
ça oui, ça oui. Par exemple, et c'est un formatage aussi, par exemple, moi j'appelle ça des idées reçues ou des conneries, mais tout simplement de choses qui se font autour d'eux, au niveau d'une formation ou d'autres choses. Mais
Team building.
team building, voilà, Merial, je suis introduit par quelqu'un dont j'ai eu la fille en centre de vacances, donc qui connaît très bien. Je vois la chef de service, elle me demande du team building pour refaire ses troupes. Mais ça me fait chier, moi, le team building. C'est très bien. Il y en a qui ont inventé ce truc-là, etc. Mais rien que quand tu fais Un animateur, il fait un JDR. Si il oriente quelque peu son JDR, c'est du team building. Je veux dire, on fait un trivial poursuite, c'est du team building. Enfin, faut arrêter, quoi. Donc moi, je lui ai dit, vous faites confiance à la personne qui m'a amené chez vous? D'accord. Vous me donnez carte blanche. Moi, je vais pas vous faire un team building, mais ce sera du team building. Mais moi, je vais vous faire un petit plateau de pâtisserie ludique et tout le monde va pouvoir grignoter et je pense que vous allez vous en rappeler. Eh ben. Elle a eu du mal à faire sortir ces gens du château où on était, parce que j'aurais trouvé un petit château sympa pour la journée. On a super bien bouffé en plus. Et on a joué tout le reste. Eh bien, ils ont loupé le rendez-vous bus. Parce que les mecs voulaient pas sortir. Ils voulaient terminer les parties en cours. Et je lui ai dit, alors, votre team building, il était réussi? Merci Jean-Pierre. De rien. Je vais vous envoyer ma facture.
À Rêve de jeu, on joue aussi le vendredi soir.
Oui, ben parce que moi je fais que travailler, parce que je suis un
Ouais, j'ai vu
addict,
ça, j'ai vu ça.
je suis un malade. Et Annie, qui est ma collaboratrice, avec son mari Ginès et François Hafner, donc de Jeux Soc, on a eu marre de ne faire que travailler. Chaque fois que je les appelais, c'est pour me donner un coup de main. Donc ils ont dit, bon, Jean-Pierre, on en a un peu marre, on voudrait travailler, enfin, on voudrait arrêter de travailler à Rêve de jeu. On continue à travailler, mais on crée un truc pour s'amuser. J'ai dit, bah oui, c'est quoi? Un club? Ah oui, bon, pourquoi pas, j'essaierai d'y venir. Bon, j'y vais une fois tous les 4 mois, et encore. Et ils ont fait ça, et bah, ça dure depuis des années. Des fois, il y a que 7 personnes, des fois, il y en a 45. Il y a plein de nouveautés grâce à François puis qui amène sa ludothèque personnelle.
Donc c'est à Pierre Bénite,
Ça, c'est à
c'est
Pierre
le
Bénite.
vendredi
C'est le
soir.
vendredi à partir de 20h30 jusqu'à 1h du matin. De temps en temps, il y a des sessions supplémentaires, par exemple après l'AG ou quand on fait des petits week-ends, des réunions comme ça. C'est ouvert à tout le monde. La première fois, c'est gratuit. La deuxième, si les gens veulent pas être adhérents, il paye, je crois, si mes souvenirs sont bons, 3, tu vois, j'y vais vachement, 3 euros pour la soirée. Donc, c'est 3 à 4 fois moins cher qu'une place de cinéma maintenant, pour 2 à 3 fois plus d'heures. Et ceux qui sont adhérents de l'association à l'année ne payent qu'un euro de droit de table, en sachant que l'argent qui est récolté, c'est fait uniquement pour acheter des jeux, de toute façon.
Oui, c'est une association.
Voilà. Ah bah oui, autant que ça serve à développer les jeux qu'on a. Donc une partie on achète des jeux pour la collection de François et une partie on achète des jeux pour ma collection ici.
Et vous avez beaucoup d'adhérents à l'association Rêve de jeu.
Alors l'année dernière on devait avoir plus de 220 adhérents sur toute la France.
Il faut devenir adhérent pour participer aux différents séjours ou
Ah ça
pas?
oui c'est obligatoire
D'accord.
parce que l'adhésion nous permet tout simplement de payer une partie du travail qui est fait pour la gestion et l'administration et de payer les assurances, puisqu'on a une assurance RC, responsabilité civile, pour ceux qui n'aiment pas les acronymes, et IA, individuel accident. Voilà.
Tu peux nous résumer un rêve de jeu en deux, trois chiffres? Est-ce qu'on est dans un local avec un nombre incroyable de costumes, un nombre incroyable de
Ah
jeux, un
oui.
nombre incroyable de choses qui sont enfin tout ton trésor est là, quoi.
Oui, les gens quand ils viennent effectivement ici, ils sont assez... Wow, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Alors Rêve de jeu, maintenant c'est 27 ans d'existence. 27 ans pour les séjours. 18-19 ans pour Rêve d'aventure pour les petits. C'est pour l'été 60 mètres cubes de matériel à installer et donc à ranger après. C'est 4 mois de préparation dans l'année. Un rêve d'aventure pour les petits, donc c'est 2 mois de préparation dans l'année et c'est de 12 à 18 mètres cubes de matériel. Une équipe d'encadrement rêve de jeu, c'est 15 personnes pour 66 gamins. Donc c'est du pas beaucoup vu, même pour des préados et surtout pour des ados préados. Ici, c'est un local de 268 mètres carrés. On n'a pas assez de place quand on veut bosser. Alors, d'autres diraient qu'il y a de la place, mais quand on commence à manipuler des mètres cubes de matériel, non. On travaille sur toute la France. On fait plein de choses. Rêve de jeu, c'est plein de rêves avec du jeu, surtout. Mais voilà, c'est déjà des chiffres pas mal. On a dû passer plus de, enfin, entre 2005 et 3000 gamins. Et là, on n'a pas vraiment de chiffres, mais on comptabilise. C'est que de plus en plus, il y a certains de nos gamins qui sont devenus responsables dans des boîtes de jeux, dans du jeu vidéo, dans du théâtre, du cinéma, etc. Parce qu'ils ont découvert tout ça avec nous, parce qu'on essaye de les initier à plein de choses, y compris enregistrer, tourner, faire des séquences vidéo, du role-playing, jouer un rôle, de l'escrime, etc. Et tout. Et un bon nombre de nos gamins, à l'heure actuelle, oui, sont à des postes importants. Des fois, de temps en temps, ils nous rendent l'appareil en nous faisant travailler pour eux. Et même si on ne gagne pas beaucoup d'argent, eh bien, on trouve que c'est une sacrée reconnaissance. Donc, papa Jean-Pierre est plutôt fier de ses fils et de ses filles qui font beaucoup de choses.
Des enfants.
On a même un énarque.
Comment tu vois l'avenir de Rêve de Jeu? On a beaucoup parlé du passé.
L'avenir de Rêve de Jeu...
Est-ce que tu as envie de faire d'autres choses? Est-ce que tu as envie de faire les mêmes choses différemment? Est-ce que tu as envie de plus rien faire, de prendre ta retraite à 55 ans?
Alors, j'ai envie de plus rien faire et de prendre ma retraite à 55 ans. J'ai envie de continuer à faire des choses, mais certainement un peu différemment. J'ai envie de faire de nouvelles choses. Donc, en ce moment, on propose... Il y a des opportunités qui arrivent à l'horizon 2013 ou des choses comme ça. Mais je crois surtout que l'année 2010 a été un peu agitée, donc ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses. Je pense que si je veux que Rêve de Jeu puisse continuer comme ça, au moins jusqu'à ma retraite, après, je ne sais pas. 65, 67, 68, 70, je ne sais pas. Donc je vais devoir... Alors, utiliser ces mots-là, ça me saoule, mais non, c'est ça. Je vais devoir rationaliser les choses. C'est-à-dire, je vais devoir faire que ça prenne moins de temps, que ça coûte moins cher, que ça reste une qualité égale, peut-être plus supérieure, j'en sais rien. Je vais voir ça, mais il faut que je rationalise un peu ces séjours. De façon à ce que à la fin de l'année on se dise pas oh là là mais il reste moins de 10 000 euros qu'est-ce qu'on va faire, c'est la catastrophe quoi. Donc ça passe aussi par le développement et certes très certainement le travail avec un partenaire qui pourrait prendre en charge justement tout ce qu'il y a à faire autour de Rêve de Jeu pour que ça tienne et qui nous prenne énormément de temps, comme en plus ma collègue Annie donc va terminer à la fin de l'année. Parce que là, elle m'a donné 10 ans de sa vie, mais elle est en train de la perdre, là, parce qu'elle est un peu malade et qu'elle ne supporte pas trop le rythme effréné qu'on a. Donc là, elle freine et je l'aide à freiner, parce que j'y tiens à cette personne.
Donc, on va revoir.
Oui, une évolution qui est en train de se mettre en place là en ce moment. Le partenaire est normalement trouvé. Il ne reste plus qu'à mettre en place les modalités. Mais j'ai voulu arrêter, je l'avoue. Hein. S'il n'y avait pas eu Rêve d'aventure l'année dernière, j'arrêtais déjà en 2009. Et là, j'ai failli vraiment arrêter en 2010. Là, avec ce qui est en train de se faire, je me rends compte qu'il y a des gens qui ne sont pas de Rêve de Jeu qui voudraient que Rêve de Jeu continue. Ceux-là, je les écoute beaucoup plus que ceux qui sont dans Rêve de Jeu et qui... soit nous encensent, soit nous enfoncent, mais qui ne font rien d'autre que dire « il faut que Rêve de Jeu continue ». Voilà. Donc, ils ne font pas grand-chose. Donc, Rêve de Jeu va sans doute continuer, un petit peu différemment, mais tant que je serai vivant, les fondamentaux de Rêve de Jeu seront là.
Vont perdurer.
Ouais, ouais.
Alors, j'ai encore deux petites questions. Qu'est-ce que c'est que
Je touffais. Alors, je touffais, ça s'écrit, certes, je touffais, mais ça se prononce Stouffer. Stouffer, c'est le chef du village de Rêve d'Aventure. C'est le chef de village, c'est un espèce de MacGyver médiéval. Il sait tout faire. Et donc, depuis son enfance, quand on regarde un peu son histoire personnelle, les gens l'appelaient « Oh, Stouffer !» Et voilà. Et c'est comme ça que Stouffer est resté. Voilà.
Et la dernière question, c'est « Mais vous avez un grand terreau chez Rêve de jeu. »
Ah, le grand terreau. Alors, la phrase complète, c'est « Quand je signais, il fut un temps, c'était le grand terreau des âges farouchement ludiques. » Tout simplement parce que ça vient d'un vieux truc. Je raconte des blagues des années 50, 60, 70. Uh-huh. Des fois moins, ça me disent certains. Et il fut un temps à Rêve de jeu où les gamins emmenés par certains animateurs, dès que je disais une blague, bien sûr qu'ils ne comprenaient pas, donc se frappaient un peu comme ça, comme s'ils avaient froid, et disaient « Oula, l'air glaciaire, le grand terreau !» Donc ça m'est resté. Et maintenant, dans le monde du jeu, souvent les jeunes et les moins jeunes m'appellent le grand terreau parce que, avec des gens comme Fabrice Sarelli d'Hexagonal, François Barou ou d'autres, on est parmi les plus anciens rôlistes de France. Voilà.
D'accord. Bah écoute, merci beaucoup Jean-Pierre.
Mais je t'en prie.
Pour tout.
Merci à Jérémy aussi.
Merci Jérémy.
Son absence est vraiment très réussie. On l'a pas entendu. Bah, il aurait pu se louper, tu vois. Mais là, il est vraiment très très bien.
Voilà.
Jérémy, bravo. Quel talent.
On reviendra certainement te voir l'année prochaine. Et puis on verra un petit peu ce que ça a donné, si ça s'est concrétisé. Moi, c'est ce que j'espère.
Eh ben, on verra bien.
À bientôt.
À bientôt.
Pour raconter une blague.
Oh, les blagues de Rêve de jeu. Oh ben alors, généralement, je les sors comme ça. En plus, c'est des blagues complètement inventées. Donc.
Blagues des années 70.
Il y en a plein. Alors, pourquoi les quais du Havre sont bleus ?
Je ne sais pas.
Alors, parce que transatlantique. Et dans la même veine, pourquoi les sous-marins sont gris ?
Je ne sais pas.
Bah parce que le périscope.